Pour créer le silence absolu, le vide, ça suffit pas. En fait, l'approche la plus efficace, et sans doute la plus contre-intuitive, c'est de prendre un bruit assourdissant et de lui jeter un deuxième bruit, tout aussi fort, directement en pleine figure.
C'est assez magique, ouais. La physique permet littéralement d'utiliser le chaos pour fabriquer de la tranquillité.
Exactement. Et aujourd'hui, bah, notre analyse approfondie s'attaque à ça, à l'architecture cachée de la réalité. L'objectif, pour ceux qui nous écoutent, c'est de décoder le monde invisible des phénomènes ondulatoires.
Voilà, comprendre comment l'énergie voyage et comment elle façonne vraiment tout ce qui nous entoure.
C'est ça. Des mystères de l'acoustique sur la planète Mars jusqu'aux petites astuces technologiques de notre quotidien, il s'agit de voir la mécanique de l'univers sous un tout autre angle.
Et c'est un angle indispensable, hein, parce que, bon, même si l'étude des ondes peut parfois sembler super abstraite, il s'agit avant tout d'identifier des schémas d'action qui sont totalement universels.
Ouais, on va pas faire un cours de maths aujourd'hui, rassurez-moi.
Ah non, pas du tout, je suis ravie d'être là pour vulgariser ça. L'idée, c'est pas de mémoriser un dictionnaire de formules mathématiques, mais bien de comprendre la logique interne de ces phénomènes. Une fois qu'on a saisi comment une onde se comporte, bah on possède une véritable clé de lecture pour presque tout le monde physique.
Super. Alors, commençons par le commencement, si vous le voulez bien. Avant même de parler de son, de lumière ou de, je sais pas, de collision cosmique, il faut définir cette fameuse onde.
C'est la base, oui. Et l'erreur classique, en fait, c'est de penser qu'une onde déplace des objets physiques.
Ah ouais, alors que c'est pas du tout ça. En réalité, c'est la propagation d'une perturbation, d'une énergie d'un point A à un point B, mais sans qu'aucune matière ne fasse réellement le voyage.
Exactement. L'énergie voyage, la matière reste.
J'adore l'image de la hola dans un stade de foot. Pour visualiser ça, je trouve ça hyper limpide.
Ah oui, c'est l'exemple parfait. Que se passe-t-il pendant une hola?
Bah, les gens se lèvent, ils jettent les bras en l'air, puis ils se rassoient immédiatement. Il n'y a personne qui quitte son siège pour courir autour du terrain, quoi.
Voilà. Pourtant, le mouvement, cette impulsion spectaculaire, elle fait le tour du stade à une vitesse folle. C'est l'illustration parfaite du transfert d'énergie de proche en proche.
Donc la matière, les spectateurs en l'occurrence, restent sur place.
Ouais, tout à fait. L'onde, c'est le mouvement lui-même. Et attention, ce mouvement, il n'est pas du tout chaotique, hein. Il possède une structure très rigoureuse, ce qu'on appelle une double périodicité, une double rythmique.
D'accord, donc c'est organisé.
Très organisé. D'abord, il y a un rythme dans le temps, c'est la période, la durée exacte d'un cycle complet, le temps qu'il faut à un spectateur pour faire son mouvement et se rasseoir.
Ok, et le deuxième rythme?
C'est un rythme dans l'espace, c'est la longueur d'onde. Concrètement, c'est la distance physique réelle entre deux sommets de la vague à un instant précis.
Donc on a bien cette structure spatio-temporelle, mais pour que la vague tienne debout, pour que ça ressemble à quelque chose, il faut que chaque point de la matière se coordonne. Moi, je vois ça un peu comme une chorégraphie, non?
Et c'est exactement ça, une chorégraphie. Et en physique, c'est ce qu'on appelle la phase. Ce qui est fascinant ici, c'est d'imaginer deux danseurs sur une scène.
D'accord.
S'ils font le même geste à la milliseconde près, leurs états vibratoires sont identiques. On dit qu'ils sont en phase.
Oui, ils sont parfaitement synchrones.
Voilà. Mais si l'un d'eux a, disons, une demi-seconde de retard, bah, la symétrie est brisée, ils sont déphasés.
Ah, et ça change tout.
Ça change absolument tout. Toute la magie et parfois la grande complexité des interactions ondulatoires reposent sur cette synchronisation parfaite ou décalée. C'est ça qui va dicter si une onde passe inaperçue, si elle s'amplifie ou si elle détruit tout sur son passage.
C'est fou. Mais pour que cette chorégraphie ait lieu, il lui faut bien une piste de danse, on est d'accord?
Tout à fait. Pour les ondes qu'on appelle mécaniques, cette piste, c'est obligatoirement un milieu matériel.
Alors, prenons le phénomène le plus intime de notre quotidien, le son. Le son, si j'ai bien compris les sources de notre analyse, c'est rien d'autre qu'une succession frénétique de compression et de dilatation de l'air.
C'est un peu à mille feuilles de haute et de basse pression, oui. Ça bouscule l'atmosphère jusqu'à venir percuter notre tympan.
Et ce qui est dingue, c'est que la fameuse piste de danse dicte la vitesse de la musique. Dans l'air, le son se traîne à environ 340 mètres par seconde, c'est ça?
Oui, 340 mètres par seconde. Mais dans l'eau, par exemple, comme les molécules sont beaucoup plus serrées, bah, la perturbation saute de l'une à l'autre beaucoup plus vite. On frôle les 1500 mètres par seconde.
Et donc la densité du milieu, ça change la donne.
Complètement. Mais quand on explore l'acoustique, il y a un truc super important. Il faut impérativement séparer deux réalités. La réalité physique et la réalité biologique.
C'est-à-dire?
Bah, d'un côté, il y a l'intensité sonore en watts par mètre carré. Ça, c'est la quantité d'énergie pure véhiculée par l'onde. et de l'autre, il y a le niveau sonore mesuré en décibels.
Ah, les fameux décibels.
Voilà. Les décibels, c'est la façon dont l'oreille humaine encaisse et décode cette énergie. Et cette traduction biologique, c'est une véritable merveille de l'évolution, parce qu'elle n'est absolument pas proportionnelle.
Oui, alors ça, on l'a vu en préparant le sujet, c'est un mécanisme de survie, en fait.
Exactement. Imaginez nos lointains ancêtres. Ils devaient être capables d'entendre le craquement super furtif d'une brindille sous la patte d'un prédateur.
Pour pas se faire manger, ouais.
C'est ça. Tout en pouvant supporter le vacarme assourdissant de la foudre tombant à proximité, sans avoir les tympans littéralement vaporisés.
C'est vrai que la plage d'énergie est dingue. L'oreille humaine gère une échelle allant de 1 à 10 000 milliards décibels.
C'est astronomique.
Bah oui, 10 000 milliards décibels. Si notre perception de cette énergie était linéaire, le simple hurlement d'une sirène d'ambulance nous ferait exploser la boîte crânienne, en fait.
C'est tout à fait ça. La nature a donc opté pour une échelle logarithmique.
D'accord.
Elle compresse cette immensité d'énergie physique en une petite échelle hyper gérable pour nous, de 0 à 120 décibels. C'est une sorte de bouclier mathématique biologique, quoi.
C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Et ça donne lieu à des calculs hyper contre-intuitifs. Si on prend un objet générant un bruit phénoménal.
Je vous écoute.
Ces trompettes en plastique crachent environ 123 décibels. On est au-delà du seuil de douleur physique.
Clairement, oui.
Logiquement, on pourrait se dire que si deux supporters côte à côte soufflent à plein poumon en même temps, les deux sources s'additionnent, donc 123 plus 123, un niveau apocalyptique de 246 décibels qui raserait le stade, quoi.
Bah non, et heureusement, c'est là que le bouclier logarithmique nous sauve la vie.
Comment ça marche, du coup ?
En fait, doubler l'énergie physique réelle n'ajoute pas les décibels de façon linéaire. Doubler la source d'énergie ajoute simplement 3 petits décibels au niveau sonore global.
Ah, juste 3 décibels.
Ça. Donc, deux vuvuzela jouant ensemble produiront environ 126 décibels et pas 246. C'est évidemment plus intense, on l'entend bien, mais l'oreille a amorti le choc en compressant l'information.
Bon, bah c'est rassurant. D'ailleurs, heureusement que le son finit toujours par mourir, par s'atténuer. Hein. Il me semble qu'il y a deux manières de tuer une onde sonore.
Tout à fait, il y en a deux principales. La première est purement géométrique.
C'est-à-dire ?
Imaginons un oiseau qui chante en haut d'un arbre isolé. Son chant crée une sphère d'énergie qui gonfle et s'étend dans toutes les directions. Plus cette sphère grandit, plus l'énergie initiale de l'oiseau se retrouve étirée, diluée sur une surface gigantesque.
Donc, juste en prenant de la distance, l'énergie par mètre carré s'effondre, le son baisse.
Exactement. Et la seconde méthode, c'est l'atténuation par absorption. Là, le matériau traversé par le son avale littéralement l'énergie.
Il l'avale ?
Ouais.
L'onde se frotte aux molécules d'un mur ou d'un double vitrage, par exemple, ce qui la transforme en une microscopique quantité de chaleur. L'énergie acoustique devient thermique.
D'accord.
Ce qui explique pourquoi, coincé dans un embouteillage, le simple fait de fermer les fenêtres de sa voiture suffit à transformer un cauchemar de pot d'échappement en un léger ronronnement lointain.
Voilà. C'est la combinaison de la distance géométrique et de l'absorption du verre qui fait chuter les décibels de manière drastique.
Mais il y a un exemple encore plus fascinant de cette absorption, on l'a vu dans nos sources. Et ça ne se passe même pas sur notre planète.
Ah, vous parlez de Mars ?
Exactement. L'astromobile Supercam de la mission Perseverance, qui est actuellement sur Mars, il possède un outil incroyable. Un laser super puissant qui fait fondre la roche martienne pour l'analyser.
Oui.
Et un microphone braqué sur l'étincelle pour écouter le clac que ça produit.
Et c'est une approche brillante d'ailleurs. Écouter le son d'une roche pulvérisée pour en déduire sa dureté, c'est du génie.
Sauf que, ils ont eu un problème, non ?
Sauf que, oui, les concepteurs ont dû faire face à un mur acoustique totalement imprévu. L'atmosphère de Mars est composée en immense majorité de dioxyde de carbone.
Ok.
Et ce gaz, dans les conditions de pression et de température martienne, il se comporte comme une éponge acoustique d'une efficacité redoutable.
Une éponge acoustique ?
Ouais, il absorbe frénétiquement l'énergie phonore, donc le son du laser qui résonnerait de manière hyper nette sur Terre. Bah, il est littéralement étouffé par l'air martien.
C'est un truc de fou. Donc à quelle distance ça devient inaudible ?
À seulement 4 mètres de distance, le claquement devient complètement indétectable par le micro. Au-delà, c'est le silence absolu.
L'acoustique extraterrestre est un monde feutré, quoi. C'est dingue. Mais ça, ça m'amène à une transition super intéressante.
Allez-y.
Si l'énergie sonore est si fragile, si elle s'épuise vite sur Mars, ou si elle rebondit bêtement sur une vitre de voiture sur Terre.
Mmh,
Comment se fait-il que les sons les plus irritants, disons, la télé du voisin, arrivent toujours à se faufiler jusqu'à nos oreilles, par une simple porte entrouverte?
Ah, la fameuse télé du voisin.
Bah oui. Le son ne devrait-il pas filer tout droit dans le couloir et laisser notre pièce dans l'ombre acoustique totale? Comment il fait pour contourner les murs?
Eh bien, c'est là que les ondes cessent de respecter la simple géométrie des lignes droites. Le phénomène responsable de cette infiltration, c'est la diffraction.
La diffraction, donc l'onde se plie?
En gros, quand une onde rencontre un obstacle ou une ouverture, elle ne se contente pas de passer au milieu ou de s'arrêter net. Sa direction de propagation se modifie, elle s'évase.
D'accord.
Mais la clé du mystère, c'est que la diffraction est capricieuse. Elle ne s'active fortement que si la taille de l'ouverture est à peu près du même ordre de grandeur que la longueur de l'onde elle-même.
Donc c'est une histoire de proportion, en fait. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre voisin ?
Prenons la voix grave de l'acteur à la télé du voisin. Cette onde acoustique a une longueur physique d'environ 1 mètre. Et la porte entrouverte fait, disons, 1 mètre de large, ou un peu moins.
Ok, donc la taille correspond.
Exactement. Le son voit une ouverture de sa propre taille, donc il est comprimé au niveau de la fente, et en sortant de l'autre côté, il s'épanouit, il s'étale en éventail, et il remplit chaque recoin de la pièce voisine. C'est pour ça qu'on l'entend de partout, même caché dans un coin.
Mais alors, pourquoi on ne voit pas l'écran de la télé par cette même porte ? La lumière, c'est bien une onde aussi, non ?
Tout à fait, mais la comparaison est frappante. La longueur d'onde de la lumière est microscopique, de l'ordre de 500 nanomètres, soit une fraction de millimètre.
Ah oui, c'est minuscule.
Donc, pour une onde aussi minuscule, une porte ouverte d'un mètre, c'est un gouffre insondable.
La lumière ne remarque même pas l'existence des bords de la porte, quoi.
Exactement. Elle file donc parfaitement droit, sans se diffracter, formant un rectangle très net sur le sol du couloir. Le son inonde l'espace parce qu'il s'étale, alors que la lumière dessine des ombres franches parce qu'elle tire tout droit.
C'est fou de réaliser que notre perception quotidienne des ombres et de l'acoustique, ça se résume à une bête comparaison de taille au final.
C'est exactement ça, une question de longueur d'onde par rapport à l'obstacle.
En fouillant ces concepts de diffraction dans nos sources, j'ai trouvé une conclusion particulièrement hallucinante concernant les obstacles. Il y a ce théorème attribué au physicien Jacques Babinet.
Oui, le principe de Babinet.
Une fente vide dans un carton de la même épaisseur.
C'est vertigineux d'un point de vue conceptuel, hein ?
Mais oui, un mur de matière et une entaille de néant, ça laisse exactement la même empreinte sur la lumière. C'est complètement absurde, non ?
Totalement contre-intuitif, oui. Le plein et le vide dévient la lumière avec la même intensité spatiale. On retrouve souvent une tache centrale large, bordée de petites alternances de lumière et d'ombre.
Et ce n'est pas qu'une curiosité de laboratoire, hein ?
Ah non, pas du tout. Cette propension de la lumière à s'étaler dès qu'elle franchit une limite, ça impose un véritable plafond de verre à nos ambitions, notamment en astronomie.
Comment ça ?
Quand on construit un télescope géant avec un miroir de plusieurs mètres de diamètre pour observer l'univers profond. L'ouverture même du télescope agit comme un trou gigantesque qui diffracte la lumière incidente.
Attends, le télescope lui-même abîme l'image ?
D'une certaine façon, oui. La lumière de l'étoile lointaine bave. Elle forme ce qu'on appelle une tache de diffraction, le disque d'Airy.
D'accord.
Du coup, même avec le meilleur miroir possible, la physique nous interdit d'obtenir un point parfait. Au-delà d'un certain zoom, l'univers devient flou. C'est une limite imposée par le tissu même du réel.
Bon. On ne peut donc pas forcer une onde à rester droite éternellement, c'est clair. Mais si la diffraction montre comment une seule onde se contorsionne autour d'un objet, on arrive à la vraie magie de la physique. Et qu'est-ce qui se passe quand deux de ces ondes se percutent de plein fouet ?
Ah, là on entre dans le domaine des interférences.
Je reviens à mon introduction de tout à l'heure. Du bruit qui annule du bruit. De la lumière qui, additionnée à de la lumière, crée de l'obscurité totale. Comment c'est physiquement possible ?
C'est le royaume des interférences. Mais attention, la nature ne distribue pas cette magie facilement. On ne peut pas juste croiser les faisceaux de deux simples lampes de poche, espérer créer des zones d'ombre au milieu de la pièce.
Dommage, ça serait marrant.
Ce serait sympa, mais ça ne marche pas. Pour avoir des interférences observables et stables, il y a des conditions strictes. Les deux ondes doivent être des jumelles parfaites.
C'est-à-dire ?
Elles doivent être synchrones. Ce qui veut dire qu'elles doivent battre exactement à la même fréquence. Et elles doivent être cohérentes, c'est-à-dire que leur déphasage doit rester absolument constant dans le temps. Leurs deux chorégraphies ne doivent jamais, jamais se désaccorder.
Et alors, une fois qu'on a ces deux jumelles parfaites, que se passe-t-il sur le terrain ?
C'est une vraie lutte de pouvoir spatial. Si l'on relie cela au contexte plus large des ondes, dans certains endroits, les ondes arrivent en phase.
D'accord.
Le sommet de la première vague s'aligne parfaitement sur le sommet de la seconde. Les forces s'additionnent, la crête devient deux fois plus haute et l'énergie explose. C'est ce qu'on appelle une interférence constructive. Une lumière éblouissante ou un son très amplifié.
D'accord, l'union fait la force, quoi.
Voilà. Mais à quelques millimètres de là, l'une des ondes, parce qu'elle a parcouru un chemin très légèrement différent, elle arrive à contre-temps.
Aïe !
Son sommet s'aligne exactement sur le creux de l'autre onde.
Le creux contre le sommet. Donc, la force qui pousse vers le haut rencontre une force équivalente qui tire vers le bas. Et au milieu de tout ça, que ressent la matière ?
Rien. Absolument rien. L'immobilité parfaite. L'énergie globale est simplement réorganisée spatialement. À cet endroit précis, les deux forces s'annulent. C'est l'interférence destructive. Zéro mouvement d'air, donc aucun son. Zéro excitation du champ, donc aucune lumière.
C'est magique.
Sur une surface plane, ça dessine un motif fascinant. Une sorte de code-barre extrêmement régulier, fait de bandes intenses et de bandes sombres.
Et c'est exactement cette interférence destructive qui est au cœur du casque anti-bruit dont on parle si souvent.
Tout à fait.
Ce n'est pas qu'un bout de plastique rempli de mousse, hein. C'est une machine à détruire l'énergie en direct.
C'est exactement ça. Il y a un microphone à l'extérieur du casque qui écoute le bourdonnement, par exemple insupportable, d'un réacteur d'avion.
Ouais.
Une puce analyse la chorégraphie de cette onde sonore entrante. Et un petit haut-parleur près de l'oreille génère instantanément la même onde, mais parfaitement en contre-temps, en opposition de phase.
C'est dingue. Donc la pression de l'air est poussée et tirée en même temps à l'intérieur du casque. L'air refuse de bouger, le tympan reste figé, et le cerveau perçoit un silence miraculeux.
Voilà, c'est de l'ingénierie qui exploite une petite faille dans la physique ondulatoire. On force le champ de bataille acoustique à produire une zone morte exactement à l'emplacement du tympan.
Elle provenait d'objets fixe, posé sur une table, des haut-parleurs, des téléviseurs ou même des étoiles immobiles. Mais dans la réalité, bah, tout bouge. Hein.
Oui, l'univers est en mouvement.
Et quand la source elle-même se déplace à grande vitesse tout en émettant une onde, le phénomène qui se produit est saisissant.
Là, l'effet Doppler entre en scène.
L'effet Doppler.
C'est ça. C'est le décalage de la fréquence et de la longueur d'onde qui est provoqué par le mouvement relatif. La mécanique de base est très élégante. Imaginez un bateau qui avance sur un lac placide tout en faisant des vagues super régulières.
Je visualise.
À l'avant du navire, le bateau rattrape un peu ses propres vagues. Donc l'espace entre chaque crête diminue drastiquement. L'onde se tasse. À l'arrière, c'est l'inverse. Le bateau fuit les vagues qu'il laisse dans son sillage, ce qui tire l'espace entre elles.
Et pour le son, cette déformation spatiale, ça change la hauteur de la note. L'exemple ultra classique, c'est la sirène hurlante d'une ambulance qui dévale une rue.
Oui, le fameux ping-pong.
Voilà. Elle compresse l'air devant elle, un peu comme un chasse-mèche, quoi. Le son est entassé vers nous, la fréquence explose et on attend ce son extrêmement aigu. Puis, à l'instant où elle passe devant nous et qu'elle s'éloigne, les vagues sont brusquement étirées, la fréquence s'effondre et le son perçu devient lourd et grave.
C'est exactement ça. La fréquence perçue est trompeuse, elle dépend uniquement du rapprochement ou de l'éloignement relatif de la source.
Mais alors, attendez, ça soulève une question super absurde, mais je me la pose.
Je vous écoute.
Si l'ambulance n'est pas en train de rouler vers moi ou de me fuir en ligne droite, mettons que je sois debout au milieu d'un immense parking vide. Et là, l'ambulance décide de tourner autour de moi en faisant un cercle absolument parfait à toute vitesse. Est-ce que le son devient aigu ou grave ?
Ah, c'est un excellent test pour vérifier la mécanique du phénomène, le calme au centre du cyclone.
Ouais, alors ?
Eh bien, pour que les vagues se tassent ou s'étirent, il faut impérativement une composante de mouvement orientée directement vers l'observateur ou fuyant l'observateur. Dans un cercle parfait, la distance radiale reste fixe.
Donc, le véhicule se déplace perpendiculairement à mon regard.
C'est ça. Puisqu'il n'y a ni approche ni éloignement, il n'y a aucune compression des ondes. Conséquence, vous entendriez la fréquence pure et réelle de la sirène, sans la moindre variation aiguë ou grave, malgré la vitesse folle du véhicule autour de vous.
Donc le mouvement perpendiculaire est totalement invisible pour l'effet Doppler. C'est brillant.
N'est-ce pas ?
Mais là où ça devient colossal, c'est quand on applique cet effet Doppler à l'astronomie et à la lumière.
Ah oui, l'échelle cosmique. La lumière, étant une onde, elle subit exactement la même contorsion élastique que le son. Seulement,
Avec la lumière, le cerveau ne traduit pas une baisse de fréquence par un son grave. Il la traduit par un changement de couleur.
D'accord.
Dans le spectre visible, les ondes très étirées glissent vers le rouge. Et les ondes très tassées, elles glissent vers le bleu.
Donc, lorsqu'un objet cosmique s'éloigne de nous à une vitesse inouïe, sa lumière est étirée. C'est le fameux décalage vers le rouge, le redshift.
Exactement. C'est l'outil numéro 1 en astronomie pour repérer les systèmes dynamiques. Par exemple, c'est comme ça qu'on a pu détecter l'existence d'étoiles binaires, vous savez, deux soleils lointains qui tournent l'un autour de l'autre de manière frénétique.
Et on le voit à leur couleur ?
Oui. Quand l'un des soleils s'approche de nous sur son orbite, sa lumière bleuit légèrement. Quand il s'éloigne de l'autre côté, elle rougit. Cette pulsation de couleur, elle révèle leur danse. Bien avant que nos télescopes soient capables de séparer visuellement les deux étoiles.
C'est un peu un radar de police appliqué à des galaxies entières, quoi.
C'est une très belle analogie, ouais.
Aujourd'hui, si on prend un peu de recul sur cette architecture cachée, on a réalisé que le monde physique, c'est qu'un immense réseau de transfert d'énergie.
C'est le grand enseignement de tout ça, en effet.
On a vu que l'énergie sonore meurt, noyée dans le dioxyde de carbone glacial de Mars, qu'elle se contorsionne pour se glisser dans une chambre par une porte entrouverte.
On a aussi vu qu'on pouvait détruire physiquement de l'énergie en forçant deux ondes à se heurter à contre-temps pour créer du silence.
Exactement. Et on a vu comment l'univers entier trahit son mouvement continu en modifiant la couleur et la hauteur de ses vibrations.
Que la perturbation ait besoin de matière vibrante, comme pour le son, ou qu'elle se propage à travers le champ électromagnétique, comme la lumière, la grammaire fondamentale reste strictement la même. Il s'agit toujours d'une chorégraphie d'énergie pure.
C'est fascinant. Mais on peut aller encore un cran plus loin pour prolonger cette réflexion.
Je sens la question provocatrice arriver.
Toujours. Dans toutes nos sources, on a parlé de vagues dans l'air, dans l'eau ou de vagues électromagnétiques. Or, la physique moderne montre que l'espace-temps lui-même n'est pas qu'un simple décor passif.
Ah, les ondes gravitationnelles.
Exactement. Lors de cataclysmes ultimes, comme la collision frontale de deux trous noirs, des vagues massives sont projetées à travers l'univers. Ce n'est plus l'air ou l'eau qui frémit, c'est la géométrie de l'espace elle-même qui vibre en se contractant et en se dilatant.
La trame même du cosmos devient la piste de danse, quoi.
C'est beau, ça. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le vide apparent du ciel étoilé, pour ceux qui nous écoutent, posez-vous la question. Si ces ondes gravitationnelles sculptent la géométrie de l'espace, peuvent-elles elles aussi créer des interférences destructives et générer des poches d'espace-temps immobiles si elles se percutent ?
C'est une vraie question de recherche, ça.
Peuvent-elles se diffracter et s'étaler en rasant le rebord d'un amas de galaxies géants, ou subir un étirement Doppler infini dû à l'expansion même de l'univers ?
Ça donne le vertige, hein ?
L'univers n'est définitivement pas un espace inerte. C'est un océan bouillonnant traversé par des tsunamis d'énergie invisible. Gardez les yeux grands ouverts sur ce frémissement permanent. Merci pour toutes ces explications, c'était passionnant.
Merci à vous, c'était un plaisir de décortiquer tout ça.